Dixit istaque ei Pilatus. Ergo, rex est tu? Respondit Iesus, tu dicis. Quia rex sum ego. Pilate lui dit, au moment donc de la passion, êtes-vous vraiment roi? Et Jésus lui répondit, vous l'avez dit, car je suis roi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Continuellement, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a ce contraste entre la puissance et la majesté divine et l'humiliation volontaire de l'incarnation. Et il est singulier que notre Seigneur, le roi des rois, le roi des anges, ait voulu s'abaisser, d'abord à se faire un homme, une créature en dessous des anges, mais à se laisser prendre et saisir pendant sa passion. Et quand Pilate lui pose ses questions, il a déjà une couronne sur la tête, c'est la couronne d'épines. Et il peut donc lui demander avec étonnement, « Vous êtes vraiment roi ?» Et notre Seigneur lui dit, « Je suis roi. » Bon, notre Seigneur, évidemment, a la science plénière, mais pour tous ceux qui entouraient, il fallait une foi très grande pour que dans ces circonstances-là, on se rende compte que notre Seigneur était vraiment roi. Mais on en a un passage encore plus marquant sur le bois de la croix. Le bon larron qui, au départ, l'avait insulté comme l'autre, il est touché par la grâce, sans doute à cause des prières de la très sainte Vierge Marie, peut-être aussi après avoir entendu notre Seigneur dire à Saint Jean, d'abord à la Sainte Vierge, voici votre fils, et à Saint Jean, voici votre mère, et il fait cet acte de foi extraordinaire, quand, Seigneur, quand vous serez dans votre royaume, pensez à moi, ne m'oubliez pas. Et notre Seigneur de lui répondre, aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Ils seront dans les limbes, et partout où notre Seigneur est présent, c'est déjà le ciel, puisque le ciel, c'est l'endroit où notre Seigneur est présent. Ce contraste entre la majesté divine et l'abaissement volontaire de Dieu qui est si frappant, qui a bouleversé le monde, qui a changé la mentalité des humains, au moins pendant tous les siècles chrétiens, qui ont eu l'intelligence et la sagesse d'en percevoir la grandeur, on le retrouve justement dans cette annonce qui a été faite tout à l'heure, puisque cette année, la fête tombe le 31, donc la veille même de la Toussaint. Cet après-midi, ce seront donc les premières vêtes de la Toussaint qui vont prendre le pas sur les secondes vêtes du Christ-Roi. Ça veut dire que le roi se fait tout petit, s'abaisse devant ses propres serviteurs. Essayez de trouver dans l'histoire des rois qui aient fait cela, vous en trouverez, mais des rois chrétiens, parce qu'ils auront imité notre Seigneur Jésus-Christ, leur roi. Cet abaissement n'est pas compris, et même certains s'en servent pour mépriser notre Seigneur. Et voyez, il y a une chose qui m'avait marqué quand j'étais à la composition, on peut dire, de la deuxième tiers, disons, du livre 7, sur les fins dernières. C'est des passages où on voit, dans les prophéties qui regardent le ciel, que notre Seigneur installerait en quelque sorte les bienheureux à table et c'est lui-même qui les servirait, qui s'en ferait comme le serviteur. On en a une autre vision marquante, c'est juste avant la Passion, après le repas pascal, ou plutôt juste avant, il va au pied et fait asseoir les apôtres, il va au pied d'abord de Saint-Pierre, commence à vouloir lui laver les pieds. Oh Seigneur, non, moi je veux bien vous laver les pieds si vous me demandez, mais vous, non, non, vous ne me laverez jamais les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, si tu ne te laisses pas faire, tu n'auras pas de part dans mon royaume. Ouh! Alors, Saint-Pierre, du coup, le laisse faire, mais il est bouleversé, évidemment. Et qu'est-ce que dit notre Seigneur? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc, moi qui suis votre maître et seigneur, je me suis mis à vos pieds et je vous ai servi, vous devrez en faire autant, vous, mes apôtres, quand vous allez devenir les chefs de l'Église et que vous allez être entourés de vénération et d'honneur, pour vous mettre à leur service. Et c'est pour ça qu'un des plus grands papes, Saint Grégoire le Grand, sera le premier qui signera le serviteur des serviteurs de Dieu. Alors, est-ce que notre Seigneur n'est plus rien parce que il s'est ainsi abaissé? Et qu'est-ce que veut nous faire comprendre cette figure symbolique citée tout à l'heure, que dans le banquet céleste, notre Seigneur servira les élus? Il avait dit lui-même, je ne suis pas venu ici-bas pour être servi, mais pour servir. Quel bouleversement dans nos mentalités! Lui, devant qui les anges se mettent en adoration, qui le servent, il s'est abaissé jusque-là. Et pourquoi il y a cette figure? Au ciel, les bienheureux, surtout encore maintenant où ils n'ont encore pas retrouvé leur corps, puisque les corps seront retrouvés par tous à la résurrection générale, quand notre Seigneur reviendra sur les nuées, ils n'ont pas besoin de manger. Donc ils n'ont pas besoin de s'attabler. Et notre Seigneur, en quelque sorte, n'a pas besoin de les servir comme s'ils avaient encore besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand j'accueillerai mes élus dans le ciel, mes bienheureux, c'est pas eux qui vont m'apporter quelque chose. Parce que moi, j'en ai pas besoin. Je me complais en moi-même, Père, Fils et Saint-Esprit, je suis parfaitement heureux. Tout ce que je fais, tout ce que je le donne gratuitement, de moi-même. C'est pour vous que je le fais, c'est pas pour moi. Et c'est là la nature donc de l'essence même de Dieu, qui est la charité, qui est l'amour gratuit. C'est-à-dire, il y a l'amour d'espérance, qui est un amour qui à la fois donne mais attend un retour. Et bon, Dieu aussi attend un retour de sa créature, même s'il n'en a pas besoin, il le veut comme un père va attendre un retour de son petit bonhomme ou de sa petite fille toute petite. C'est pas qu'il ait besoin de quelque chose, mais ce petit sourire, etc., sera pour lui beaucoup de choses, même si l'enfant ne lui apporte rien sur d'autres plans. Bon, en quelque sorte, c'est la seule chose que nous apporterons, si on peut dire ça comme ça, parce que Dieu le veut bien à Dieu. Mais c'est lui qui comble ses élus. C'est lui qui les remplit. Et même si les anges le servent et autres, ben, c'est une dignité de servir Dieu. Je me rappelais, pour le dire d'une façon qui nous parle plus, d'une dame qui avait servi, une dame très simple, qui avait servi au château. Donc, dans une grande famille, etc. Et elle en parlait encore avec émotion. Elle y avait passé que quelque temps comme jeune fille. Et elle me disait, monsieur l'abbé, toutes les bonnes manières que j'ai et tout ça, c'est les châtelains qui m'ont appris. Ils nous amenaient même à la messe et la châtelaine me montrait comment suivre la messe, etc. Donc, déjà, si on est ému à servir des grands d'ici-bas, qu'est-ce que c'est que les grands d'ici-bas par rapport à Dieu? Vous pensez que ceux qui sont au service de Dieu ou autres en ont une joie immense. Et donc, c'est une épreuve que Dieu permet. On en a une image dans l'épreuve des anges. Notre Seigneur les a créés plus parfaits que nous, ils n'ont pas de corps, etc. Ce sont des esprits. Les uns plus grands, les autres plus petits. Les dons de Dieu sont gratuits, ils donnent plus à un, moins à un autre. C'est comme ça. Et il n'aime pas qu'on envie les dons d'autrui, parce que c'est la meilleure façon de tarir les siens. Maintenant, ça veut pas dire que si la petite Geneviève, la petite de Pibrac, Germaine, correspond mieux à la grâce, à son petit niveau, elle n'aura pas une récompense plus grande au ciel que le grand saint Pilice, qui à sa place aura répondu aussi à la grâce, mais peut-être pas aussi sublimement à son niveau que leur. Donc, vous voyez, les idées qu'on peut avoir, nous, tout l'équilibre se refera au ciel d'une façon mystérieuse qui nous dépasse, mais ce sont des dons qu'on a reçus, et les anges avaient reçu de grands dons. Et quelquefois, les dons sublimes, ben, sont une épreuve, parce que du coup on se complaît en soi-même. Et si on s'attribue les dons de Dieu, comme étant personnel, on commence indirectement à se mettre un peu à la place de Dieu, et c'est ce qu'a fait un des anges les plus hauts, puisqu'on l'appelait le porte-lumière, Lucifer, et ils n'avaient pas encore la vision béatifique, parce que s'ils avaient eu la vision béatifique, ils auraient pas pu faire cela, mais ils avaient une intuition angélique, et ils savaient bien que Dieu est leur créateur, ils savaient bien que il lui devait tout, mais précisément, il considérait que la bonté de Dieu, et donc, quelquefois, quand les parents sont, entre guillemets, trop bons, ben, les enfants en abusent. Et là, Lucifer s'est dit, alors, on pense que l'épreuve, c'est que Dieu leur a révélé que le Verbe s'incarnerait un jour, et que donc il prendrait une nature humaine donc en dessous, et donc cette union-là à Dieu pour être l'égal de Dieu, on peut penser que c'est Lucifer qui a voulu l'avoir. En tout cas, il s'est révolté contre Dieu. Et imaginez que Dieu ait réagi tout de suite, soit qu'il ait tout de suite créé l'enfer, ou soit même qu'il ait immobilisé, il ait réagi devant Lucifer ou quoi, ouh, il n'y en a pas un deuxième qui aurait bougé. Tout serait tombé sur lui et les autres n'auraient pas bougé. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Les astres, qui sont comme une horlogerie et tout ça, ils obéissent à Dieu sans problème. Mais ils le font aussi sans intelligence. Ils sont programmés, etc. Ils font exactement. Dans tous les détails, les programmations, ça vaut autant pour l'immensément grand que pour le tout petit, puisque maintenant avec les atomes et tout ça, on voit toute la précision de la création divine qui devrait nous faire pâmer d'encore plus d'admiration, l'infiniment grand, mais aussi l'infiniment, si on peut dire, à notre échelle. Et comme le tout petit petit, donc la perfection de Dieu. Et Dieu ne veut pas que les êtres intelligents et volontaires le servent comme les astres. On pourrait dire maintenant comme des robots. C'est pas ça qu'il veut. À la fois pour qu'il y ait le véritable amour de Dieu, et entre parenthèses, le véritable amour à tous les niveaux, il faut qu'il y ait respect mutuel, et ensuite, il faut qu'il y ait le mouvement de correspondance libre. Et donc, s'il avait tout de suite cassé Lucifer ou quoi, les autres, tous les mauvais, c'est quand même 1 sur 3 d'après la révélation, d'après une image de l'Apocalypse, le dragon qui balaye un tiers des étoiles du ciel, 1 sur 3 sur des myriades et des myriades, ça fait beaucoup. Il n'y aurait pas eu toute cette perte-là si Dieu avait réagi tout de suite. Pourquoi il n'a pas réagi tout de suite? Ils avaient une intelligence intuitive qui leur suffisait pour comprendre la grandeur de Dieu, pour comprendre qu'ils étaient des êtres qui ne subsistaient que parce que Dieu les maintenait dans l'être et tout ça, ça devait leur suffire. Et donc Dieu a attendu que les bons anges réagissent avec Saint-Michel à leur tête. Et quel est le cri de Saint-Michel? C'est un cri de bon sens. Michaël, qui est-ce qui est comme Dieu? Qui est-ce qui est semblable à Dieu? Tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, ça vient de Dieu. Donc, c'est là qu'est tout notre bonheur, etc. Et la même chose a été refaite après. Adam, dans le paradis terrestre, mais aussi au moment du déluge. Au moment du déluge, pourquoi Dieu n'intervient pas plus vite? Si, quand les premiers de la descendance fidèle commençaient à s'unir avec ceux de la descendance infidèle, puisque c'est ça qui est à l'origine lointaine du déluge, eh bien, s'il était intervenu tout de suite, oh, ça aurait été terminé. Et quelquefois, Dieu fait ça dans nos vies. Et heureusement, des fois, on est sur une mauvaise pente, on fait une grosse bêtise, oh, ça y est, on a le châtiment tout de suite. Quand c'est comme ça, entre parenthèses, c'est une grâce, parce qu'on se reprend vite. Mais le pécheur dit, c'est dans le passage de l'Écriture, j'ai péché, mais rien n'arrivait. Donc, ben, du coup, soit c'est que Dieu se désintéresse de nous, soit c'est qu'il n'y attache pas d'importance, etc. Donc je peux multiplier, et ça c'est une catastrophe. Et pourquoi Dieu a laissé se multiplier les péchés, les péchés, les péchés? Parce que, comme il allait châtier, comme il avait jamais châtié jusqu'ici pour les humains, par la fin du monde, antédiluvien, c'est déjà une fin du monde. Eh bien, il a laissé monter le mal jusqu'à un degré qui fait que ça montre à tous que sa patience avait dépassé toutes les bornes et que ben, le châtiment terrible allait être malheureusement proportionné. Donc, cet abaissement de Dieu, c'est il a été imité par ceux qui ont compris Dieu. On en a un exemple en France. Le roi Saint-Louis, ah, c'est pas tout de suite, hein. Il était déjà pieux, etc. Mais il a fallu qu'il soit malade, qu'il soit aux portes de la mort. Alors il a fait vœu que s'il guérissait, il irait à nouveau renforcer la Terre Sainte, etc. Et donc défendre le tombeau du Christ, etc., et qui referait la croisade. Et il y a été, il a eu des succès au début, parce que il a eu l'intelligence d'aller frapper à la tête, au lieu d'aller directement à Jérusalem, il est allé là où il y avait le plus grand sultan. Le bon Dieu l'a éprouvé, son armée a été décimée par la peste, il est tombé entre les mains des infidèles. Ça l'a aidé à se transformer. Il a été tellement grand que le sultan lui admirait tellement l'esprit chrétien et des chevaliers qui entouraient le roi, qui lui dit, fais-moi chevalier. Et le roi de lui répondre, fais-toi chrétien. Et l'autre, en cause de son entourage, n'a pas été jusque-là. Donc après, ils ont fait un échange avec Damiette, il a été libéré. Il est allé partout sur les traces de notre Seigneur en Palestine et autres. Il a eu les récits, etc., des chrétiens sur place. Il est revenu complètement transformé quand il a appris que sa mère qui assurait la régence était décédée. Et alors, tous les jours, avant de manger lui-même, il faisait nourrir 12 pauvres, et c'est lui-même qui les servait, lui le roi de France. Entre parenthèses, il y avait un roi qui l'avait précédé de presque un siècle, si je ne me trompe pas. C'était peut-être même deux. C'était Saint-Étienne de Hongrie. Saint-Étienne de Hongrie qui, on peut dire, la Hongrie, c'est un peu les descendants des Huns aussi. Bon. Qui a été converti par Saint-Henri Ier et avec l'aide de son épouse qui était la sœur de l'empereur, Gisèle, là. Et lui aussi, il s'est mis à servir les pauvres. Et il y a quelqu'un d'encore plus grand que ces rois de la terre qui a fait la même chose. C'est le même saint. Saint Pape, Saint Grégoire le Grand, qui lui aussi, chaque jour, il faisait venir des pauvres, il accueillait des pèlerins, etc., et il les servait lui-même aussi à table. Donc, c'est des choses qui sont bouleversantes. Ils avaient compris l'Esprit de Dieu et autres, et ils avaient compris que c'est en s'abaissant et en étant humble qu'il se grandirait. Celui qui s'abaissera sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Voilà, c'est notre Seigneur qui nous le dit. Donc, tout cela nous montre la grandeur de Dieu, et notre Seigneur, il est le roi des rois. Ça veut dire que il règne, qu'on le veuille ou non. Et comme le disait le cardinal Pi, ou bien il règne comme honoré tout ça par ses bénédictions qui en résultent, ou bien il règne par son absence comme il laisse faire. Et plus Dieu laisse faire et laisse les humains s'enfoncer, plus c'est mauvais signe. Quand il châtie, oh, on a fait un péché, on attrape telle maladie, ou des fois il y a une peste, oh, ça rappelle les choses, ça remet les choses en ordre et tout ça. Plus il attend, plus il risque de frapper fort. Donc tout ça nous montre pour notre propre vie, ça va être la même chose. On va avoir le même genre d'épreuve. Et Dieu est Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et s'il passe pas le premier en nous, on peut pas rentrer au ciel. Alors, attention, le minimum, c'est un minimum qui est pas si minimum que ça, mais enfin, c'est le minimum que Dieu dit. Il dit, c'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur qui m'aime, c'est celui qui fait ma volonté. Donc le minimum, c'est le respect des commandements de Dieu. C'est donc de s'écarter du péché et autres. On n'est pas des anges, on est plus faible. On peut aussi se reprendre. Les anges, ils sont tombés une fois, c'était terminé. Ils n'avaient pas le même genre de faiblesse que nous, mais ils ne pouvaient pas se reprendre non plus. Nous, on a encore la possibilité, quand on a péché, de le reconnaître devant Dieu, de s'humilier et de retrouver l'état de grâce. Bien. Et puis après, de ce minimum, disons, pour rentrer au ciel, on peut passer aussi à des maximums, c'est-à-dire se donner pleinement à Dieu et le choisir principalement lui. Voilà. Et vous le savez, je le redis souvent, mais c'est pour que ça rentre, pour que tout ce qu'on peut aimer ici-bas, y compris nous-mêmes, si on peut dire, ça vient de Dieu. C'est des petits reflets de perfection divine. Et c'est démultiplié en Dieu. Et plus on place Dieu dans notre cœur, là où il doit être, c'est-à-dire à la première place, et aussi bien sûr en notre esprit, plus on participe à sa vie divine qui est la charité, plus du coup on cherche à faire du bien à Dieu à travers le prochain, parce que Dieu on peut pas, hein, que n'as-tu que tu n'aies reçu, donc on peut rendre à Dieu, on rend grâce à Dieu, voilà. Et puis après on peut lui faire du bien, tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc voilà comment on peut rendre à Dieu. Et plus on a une haute idée et un haut amour de Dieu, et plus on touche au bonheur. Et ici-bas, on le sent dans les vies de saints, même quand ils ont des grosses épreuves et autres, et même les épreuves, justement, aident au détachement de tout ce qui n'est pas Dieu pour nous porter vers Dieu. Donc, voilà la grande grâce qu'on peut demander à la très sainte Vierge Marie, puisqu'on est dans un temps de grande apostasie, de mépris complet de Dieu. On vous prétend que la loi de la ruine publique serait plus importante que la loi de Dieu. Eh bien non. Les 10 commandements, ils s'imposent. Si on les respecte pas, bon, on pourra faire des pseudo-lois, etc., qui vont contre, mais ça changera rien à la réalité. Et les puissants seront puissamment jugés et tourmentés. Ça, c'est aussi dans l'Écriture. Donc, plus ces gens-là auront eu du pouvoir et en auront abusé, et plus ils auront à en rendre compte, et plus ils auront à en souffrir pour l'éternité. Donc, on a besoin d'avoir cet équilibre dans l'esprit, parce qu'on voit que des choses, et on se dit, ben, Dieu fait rien. Alors, il s'en fiche, il n'y attache pas d'importance, ce gars. Oui. Il laisse faire le mal et quoi? Oui. Il laisse faire le mal. Oui, alors, s'il y avait Dieu, il permettrait pas que telle chose arrive. Oui, que vous vouliez quoi? Quand vous allez faire le mal, avant que vous fassiez le mal, il vous fasse tomber raide mort. Il n'y aurait plus personne sur la terre. Donc, il a voulu nous laisser cette liberté aussi, ce libre arbitre qu'il a donné aux anges, pour que nous puissions mériter, pour que nous puissions l'aimer du fond de notre cœur. C'est ça qu'il veut. Il veut pas une armée d'esclaves. Il veut des gens qui comprennent sa grandeur, qui comprennent que, quand je relisais des passages puisqu'on l'a fêté il y a pas longtemps, de la vie de Sainte Marguerite Marie, et quand on voit comment notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sollicite cette simple âme, etc., hein, eh bien, on voit que même s'il n'a pas besoin de nous, il désire cet amour que nous lui rendions. Eh bien, demandons à Notre-Dame cette grâce de savoir honorer Dieu comme roi, c'est-à-dire de le faire passer avant tout dans nos pensées, dans notre cœur, dans nos buts, dans les moyens que nous choisissons et autres, et en se disant que même si on peut réussir tout ce qu'on veut ici-bas, si on rate son ciel, que sert à l'homme de gagner l'univers entier s'il vient à perdre son âme? Eh bien, que les saints anges et tous les bienheureux que nous allons avoir la joie de fêter demain mettent sur le chemin de la sagesse qui les a conduits là-haut, et nous obtiennent, nous aussi, d'honorer notre Seigneur et de le faire passer avant tout, de l'aimer vraiment plus que tout, et en lui-même et pour lui-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.